There are all kinds of bells.
Ça, il y a toutes sortes de cloches. Hein.
There are beautiful tinkly bells.
Il y a des petites clochettes merveilleuses.
There are deep cathedral bells.
Il y a des cloches de cathédrale.
Bells of mourning.
Il y a des glas de deuil.
Bells of marriage.
Des cloches pour le mariage.
So,
et donc,
a book needn't be just polished tones
un livre,
and bells,
ça ne doit pas être simplement des phrases polies et qui sonnent comme des cloches.
Every good
Chaque
book, really
bon
good
livre,
book,
vraiment très bon livre,
invents its own form,
invente sa propre forme
and is written in its own language,
est écrit dans sa propre langue.
A language that didn't
C'est-à-dire
exist before.
Une langue qui n'existait pas auparavant.
So that really determines
C'est ça
what the book
qui détermine
will be.
Ce que sera un livre.
Will it stay in memory or will
Est-ce que
its
ça
impression
restera dans les mémoires, dans
be
les
more
sentiments
orchestral, be more like music?
Ou, allez, est-ce que ça sera comme de la musique?
Or will it be more didactic? Will
Ou est-ce que ça sera
more
didactique?
Narrative and that the narrative being the important
Ou est-ce
thing.
Que c'est le récit qui sera la chose la plus importante
and the language not really
et que la langue ne sera pas tellement importante
comes.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Bien sûr, il y a les grands livres dont, à travers les âges et les modes, nul n'oserait discuter le statut de chef-d'œuvre. Mais les bons livres, au fond, comment en donner des signes distinctifs et universels quand on admet que chacun a ses propres critères et surtout son goût personnel ? Et faut-il se désespérer d'apprendre que les plus grosses ventes de choses écrites en France se trouvent dorénavant sur Internet, rédigées par des blogueurs ou des influenceurs, comme on dit aujourd'hui ? Revendiquons donc clairement notre subjectivité de lecteur pour écouter les conseils de ce styliste magnifique que fut James Salter, que l'on entendait parler à ce même micro en 2014, un an avant sa mort, et cherchons dans les livres que nous aimons le son pur d'une langue nous révélant une histoire qui nous touchera intimement. James Salter, donc, et Richard Ford, et Raymond Carver, et Alice Munro, et Cynthia Ozick, et Aaron Appelfeld, mais aussi Jean-Paul Dubois, Geneviève Brisac, Agnès de Sartre, Florence Sévos, et tant d'autres noms familiers qui, à chaque fois que nous effleurons du regard les rayons de nos bibliothèques, nous font signe, comme autant d'amis prêts à reprendre avec nous une conversation jamais achevée. Tous rassemblés sous une élégante jaquette blanche sur la tranche de laquelle un olivier nous parle de Grèce et du navire Argo sur lequel Jason partit en quête de la toison d'or. Les éditions de l'olivier ont 30 ans et des poussières ce mois-ci. À travers écueils et tempêtes, leur capitaine Olivier Cohen a su ramener de l'or dans ses filets. Bonsoir Olivier Cohen.
Bonsoir Kathleen Evin.
Bon anniversaire donc.
Merci.
Plus de 1000 titres sur votre catalogue et pour fêter ces 30 ans d'existence de l'Olivier, une nouvelle collection, la Bibliothèque de l'Olivier, avec 18 titres de 18 de vos auteurs. Est-ce que je pourrais dire que, et cette Bibliothèque de l'Olivier, et surtout le catalogue, c'est au fond une sorte d'autobiographie éditoriale ? Vous dites trajectoire éditoriale. Est-ce que le mot autobiographie n'est pas finalement plus juste ?
Si on veut, sauf que j'ai toujours pensé que le rôle d'un éditeur, c'était pas de se mettre devant, mais derrière les auteurs ou dans la coulisse. Et autrefois, je voulais faire du théâtre, je voulais être metteur en scène de théâtre. Et il me semble maintenant que publier de la littérature, publier des écrivains, ça exige une certaine mise en scène. Pas une mise en scène tonitruante, mais une manière de les présenter, de les présenter au public. Et d'ailleurs, avant toute chose, je voulais vous remercier de nous avoir fait entendre la voix de James Salter, que je n'ai pas entendu depuis sa mort et qui me touche énormément. Et parce que c'était une rencontre tardive, mais c'était une rencontre, James Salter, importante. Et vous parliez d'autobiographie, je dirais plutôt la liste d'un certain nombre de rencontres qui ont compté, et dont certaines m'ont changé même, ont changé ma manière de voir les choses ou même ma vie.
Oui, mais autobiographie n'était pas pour dire que vous vous mettiez en avant, c'est simplement que lorsqu'on a l'habitude de lire les livres que vous nous proposez, Olivier Cohen, on voit vos goûts, parce que
oui, c'est vrai.
Au fond, au contraire des grandes maisons d'édition qui publient beaucoup de choses très différentes en fonction des directeurs de collection, de qui est puissant à ce moment-là et qui l'est moins, vous, au fond, vous avez, si l'on peut dire, une petite maison dans laquelle vous publiez ce qui vous touche. Donc, d'une certaine manière, ce catalogue que vous nous présentez et qui a 30 ans, ce sont vos goûts personnels et avec ce fort tropisme de départ pour les auteurs anglo-saxons. Alors, quand vous avez créé les éditions de l'Olivier en 91, parce que Claude Cherki, qui était le patron du Seuil à l'époque, vous l'a proposé, au fond, il y avait déjà 20 ans que vous faisiez de l'édition dans des petites maisons dont on n'a pas oublié les noms. Il y a eu Champs Libres, il y a eu Le Sagittaire, il y a eu Mazarine, il y a eu Payot. Mais l'Olivier est finalement la résultante de ces 20 ans d'exercice de la profession d'éditeur et du fait que vous vous êtes rendu compte que vos goûts pour les auteurs américains, suite à vos voyages aux États-Unis, c'était pas tellement connu à l'époque. Il y avait pas encore énormément de ces livres étrangers que maintenant on consulte sur les plateaux des bibliothèques. Mais à l'époque, il y avait, à part Maurice Nadeau qui publiait des étrangers, c'était pas du tout prévu.
C'est vrai. Et je me souviens d'une conversation avec Ivan Nabokov, qui a été un des grands éditeurs de littérature étrangère. C'était même notre modèle à tous. Il a beaucoup travaillé, notamment avec Christian Bourgois, dont il était très proche. Et on se disait, finalement, on est assez peu nombreux à traverser l'Atlantique régulièrement pour aller voir ce qui se passe là-bas. Alors, aujourd'hui, ça paraît étrange, effectivement, vous avez raison, mais disons, il y a 20, 25 ans, 30 ans, c'était pas très courant. Il y avait d'un côté les éditeurs de littérature française, ils étaient à Paris, et un certain nombre de directeurs littéraires ou conseillers littéraires qui s'occupaient de la littérature étrangère. Mais il y avait de grands auteurs étrangers publiés en France, bien sûr, mais à l'époque, c'était plutôt une activité de prestige. Vous voyez, c'était l'édition littéraire, c'était les auteurs français d'abord. Et quand j'ai expliqué mon projet à mes associés du Seuil, puisqu'ils m'avaient proposé donc de créer cette maison d'édition avec eux, ils étaient un peu étonnés, mais ils m'ont fait confiance. Je leur ai dit, je pense qu'on peut créer une maison d'édition viable en publiant beaucoup de littérature étrangère et notamment de littérature américaine. Alors, heureusement, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 ? C'était le début de ce qu'on a appelé la mondialisation. C'est-à-dire que des effets de la mondialisation, c'est que les Français se sont mis à s'intéresser beaucoup plus qu'avant aux littératures étrangères.
Alors, tout à l'heure, Olivier Cohen, vous disiez, au fond, ce catalogue que j'ai créé, c'est aussi beaucoup d'histoires de rencontres. Moi, je vais dire mieux que ce sont des histoires d'amitié.
Oui.
Et notamment, le premier livre qui, à l'Olivier, a bien marché et que vous allez republier dans cette bibliothèque de l'Olivier, c'est le livre de Jay McInerney que vous aviez déjà publié chez Mazarine et chez Payot. Et ce livre-là, il a compté beaucoup. Il est sorti en 93. C'est 30 ans et des poussières, mais par Jay McInerney, vous avez tiré le fil des amitiés et vous êtes passé à Carver, vous êtes passé à Salter. On va écouter justement Jay McInerney parler de James Salter.
Actually, Salter was, he was a friend of mine, but he was
C'était
also
un ami à moi, Salter.
Somebody that I
Mais c'est aussi quelqu'un que j'ai vraiment admiré.
And I actually think that
Et en fait, je pense que
his novel Light Years,
son roman Light Years
had an influence on the creation of Russell and
a eu une influence sur la création de mes personnages,
it was a novel
Russell
about
and Corinne Calloway. C'était un roman sur le mariage, un mariage glamour.
And in retrospect, I think
Et rétrospectivement, je pense que
that book had a big influence on me, but,
ce livre a eu une grosse influence sur moi.
I love his work.
Mais j'aime son œuvre.
And I'm happy that he had an audience here in
France. Et je suis heureux qu'il ait eu un public en France de lecteurs.
He was not as popular in the United States.
Il n'était pas aussi populaire que ça aux États-Unis, autant qu'il le méritait.
His style is so,
son style
so beautiful, so
est tellement beau,
for somebody who
tellement
loves,
complexe,
who loves languages, just,
pour quelqu'un qui aime la langue.
He was a virtuoso.
Vraiment, c'était un virtuose. Et je pense que il m'a inspiré à repousser les limites du langage. Et c'était un des rares écrivains qui écrivait bien sur le sexe. C'est très très dur à faire. Mais lui, c'était un maître.
Olivier Cohen, votre histoire d'éditeur, c'est une histoire d'amitié, mais d'amitié aussi entre ces écrivains américains.
Oui.
Il y a eu Jay McInerney, Ray Carver, puis par les, l'éditeur de Jay McInerney, vous avez rencontré Richard Ford, vous avez eu Cormac McCarthy. Bref, cette façon, cette maison d'amitié qu'est l'Olivier, ça a été aussi de publier des écrivains américains, notamment, qui étaient amis les uns avec les autres. Et ça a beaucoup compté.
Oui, mais vous ne croyez pas si bien dire, parce que il y a eu des, bien sûr, des amitiés très fortes entre les uns et les autres. Et puis, il y a eu des brouilles aussi. Et j'ai essayé de réconcilier Richard Ford avec son éditeur, qui est aussi un très grand ami, Gary Fiske-John, qui était le plus grand directeur littéraire américain pendant des années, et qui a publié une bonne partie des auteurs dont vous avez cité les noms. Et je n'y suis pas arrivé. Et c'est un échec dont je ne me suis pas vraiment remis. Parce que j'aimais cette idée qu'on formait une sorte de, comme ça, de, je sais pas, de clan, de groupe virtuel, amical, qui se poursuivait après, année après année, si vous voulez. Mais c'était aussi, ce sont aussi des gens extrêmement différents. Alors c'est drôle ce que dit, si je peux me permettre une petite digression, ce que dit Jay sur James Salter à propos, il écrivait très bien sur le sexe. Et on va donc republier dans cette collection un très beau livre très érotique qui s'appelle Un sport et un passe-temps. Et il y a des années, j'ai reçu un coup de fil un jour d'un réalisateur de télévision, de cinéma, qui m'a dit, voilà, je fais un film sur James Salter. Il m'a dit, voyez mon éditeur français, il connaît très bien mon œuvre. Donc ce monsieur est venu chez moi, il a installé sa caméra, tout ça. Je savais pas du tout de quoi on allait parler. Alors, il me dit, voilà, alors, James Salter souhaitait que je vous pose la question suivante. Quelle différence faites-vous entre l'érotisme et la pornographie ? Vous imaginez, c'était assez embarrassant, disons. Je ne sais pas comment je m'en suis tiré, mais c'était le genre de choses que faisait Jim Salter. Vous voyez, quand on était proche, c'était son genre d'humour. Oui.
D'ailleurs, donc vous disiez, dans la liste des 18 titres qui vont paraître en 2021 pour fêter les 30 ans de l'Olivier, il y a le livre de James Salter, Un sport et un passe-temps, qu'il faut lire parce que c'est un grand livre aussi. Et puis, il y a votre fidélité à une femme, Cynthia Ozzie, qui n'a jamais eu de grosses ventes. Et vous publiez non pas un des livres que vous avez déjà édité d'elle, notamment notamment Le Châle, qui est un chef-d'œuvre absolu, mais un texte inédit, La Galaxie Cannibale. Vous allez nous en parler, mais on va écouter la voix de Cynthia Ozick avant.
Irving Howe, great American, recently died, not so recently, died a critic, said
Irving Howe, un grand critique américain décédé il y a quelque temps, disait que l'écriture juive américaine prendrait fin quand il n'y aurait plus d'émigration. Mais comme il y a encore de jeunes écrivains russes qui viennent chez nous et que l'immigration est loin d'être terminée, je crois qu'Irving Howe se trompait dans ses prévisions. Et il se trompait aussi sur le fait que l'élément juif dans la littérature puisse exister, puisque ce n'est qu'une idée, un concept, qui ne permet pas à un écrivain de s'assimiler dans un pays où il se trouve. En ce qui me concerne, je peux dire que je fais partie des écrivains juifs. Je suis américaine, je suis juive, je suis écrivain. C'est une évidence, c'est quelque chose de très profond en moi et de superficiel à la fois que je n'ai aucune envie de nier. Pourtant, quand on me demande si je suis un écrivain juif, je réponds toujours que c'est un oxymore, une contradiction dans les termes, parce que l'écrivain est un animal sauvage qui visite des lieux étranges et parfois diaboliques à cause de son imagination, alors que le juif, lui, est le représentant d'une des civilisations les plus élaborées. C'est pour ça que dire écrivain juif est une contradiction. Les deux choses ne peuvent pas cohabiter, sauf si l'écrivain n'écrit pas de romans, mais des sermons, des essais, des tracts, toutes choses qui engagent l'enseignement, la politique, la sentimentalité, l'éducation, mais pas directement la littérature. Les écrivains sont des animaux sauvages. J'aime à le répéter.
Assez surprenante déclaration, Olivier Cohen. Je pense que Philippe Roth a dû mourir de rire en entendant ce genre de choses.
Ça ne me surprend pas. Et c'est une femme extraordinaire et qui a un goût du paradoxe, comme vous avez pu le remarquer, assez affûté. J'ai une immense admiration et beaucoup d'affection pour Cynthia Ozick. C'est grâce à Edmond White, en fait, que je l'ai publié. Il y a fort longtemps, j'étais l'éditeur d'Edmond White, qui est un véritable puits de science et de culture. Et je lui avais dit, mais comment tu la définirais? Je me souviens encore, il m'avait dit, She is the Jewish Flannery O'Connor. C'est la Flannery O'Connor juive. Donc ça m'a paru tellement et curieux que je me suis mis à la lire. Et j'avais publié en fait ce livre aux éditions Mazarine. Je dois dire dans une grande indifférence. Et pour moi, c'est un chef-d'œuvre ce livre.
La Galaxie Cannibale.
La Galaxie Cannibale. C'est une histoire qui se passe à Paris d'ailleurs. Et alors. J'avais relu la traduction avec Claudia Ancelot, qui était une très grande traductrice, et on avait remarqué que dans ce livre, qui se passe à Paris, donc, elle faisait passer le bus 96 dans la rue des Rosiers. Donc, je m'étais permis d'écrire à l'auteur en lui disant, je suis vraiment désolé, mais pour les lecteurs parisiens, ça pose un problème. Et elle a fait ni une ni deux, elle m'a écrit, répondu tout de suite, en disant, voilà, j'ai réécrit ce paragraphe qui figurera uniquement dans l'édition française, merci de me l'avoir signalé. Et ce qui montre que c'est un très grand écrivain, mais elle ne se prend pas trop au sérieux, si vous voulez.
Alors, parmi les 18 titres, il y aura bien sûr une réédition du livre de Richard Ford, Indépendance. Et là, on va écouter sa voix. Je vous laisse découvrir. C'est assez formidable.
Literature is a privileged form
of address. La littérature, c'est un privilège.
For which readers are,
une façon
for which readers are willing
d'exprimer
to, surrender themselves,
ce que les gens ne veulent pas.
In ways that conventional settings do not,
c'est une façon de faire qu'on ne peut pas réussir à obtenir différemment. Donc c'est une grande opportunité pour l'écrivain d'utiliser son imagination
to invent basically
pour
a vocabulary,
inventer un vocabulaire.
If not better than to the side of, in essence,
peut-être pas meilleur, mais de cette essence.
What we normally say when we speak to each other,
l'essence de ce que l'on dit habituellement quand on se parle. Il y a un poème merveilleux que je n'ai pas écrit, donc on n'a pas besoin de s'inquiéter là-dessus, qui est de Octavio Paz.
Between what I see and what I say,
entre ce que je vois et ce que je dis,
between what I say
entre
and
ce que je dis
what I keep silent,
et ce que je ne dis pas,
between what I keep silent
entre ce que je ne dis pas et ce que je rêve,
between what I dream
entre
and what
ce
I forget,
que je rêve et ce que j'oublie,
is poetry.
Il y a la poésie.
So that's where those things that you're describing
et c'est là que ces choses de,
are said to reside.
Que nous décrivons se trouvent.
They aren't there.
Elles sont là.
The spaces don't even exist, but literature imagines spaces to exist.
Les espaces n'existent pas, mais la littérature les imagine et les remplit de mots.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
La littérature américaine, ceux qui s'expriment bien et savent raconter des histoires se tournent surtout vers la télévision. Ce qui est inquiétant, c'est que le monde de la télévision soit bien plus attirant que celui des lettres. Mais il n'y a pas péril en la demeure, car les vrais lecteurs ont besoin de livres. Ils peuvent apprécier la télévision, le cinéma, mais ils auront toujours besoin de livres. Tous les écrivains ont commencé par être des lecteurs. Et chez certains lecteurs particulièrement assidus, l'expression artistique passe nécessairement par l'écriture littéraire. Beaucoup d'écrivains majeurs ont disparu ces dernières années. Updike, Mailer, Salinger, Bellow. C'est un peu comme la migration chez les oiseaux. Dans un monde qui leur est hostile, de plus en plus hostile, à chaque printemps, on se demande s'ils vont revenir.
Olivier Cohen, vous avez bien sûr reconnu la voix de Jonathan Franzen en 2012, surtout parlant des oiseaux. On sait que maintenant, c'est son grand sujet. C'est Jonathan Franzen que vous allez republier. Vous avez publié Freedom, les corrections en 2001. Et là, vous allez republier Freedom. Et Jonathan Franzen dit quelque chose sur les écrivains. Et moi, ça me ramène à votre métier d'éditeur, parce que l'Olivier, c'est ce qu'on appelle une petite maison. Donc, il y a une cohérence, et en 30 ans, vous êtes resté à la barre des éditions de l'Olivier. Et le groupe Le Seuil, qui possède l'Olivier, vous avez vu passer des PDG, changer des majorités, ça a été vendu, revendu. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment aujourd'hui, alors que les maisons d'édition deviennent de plus en plus grandes, publient de plus en plus de tout, comment garder ce qui fait l'originalité d'une maison comme l'Olivier, c'est-à-dire l'auteur, ce qui vous ressemble, que ce soit des auteurs français ou des auteurs étrangers, quand on lit un livre de l'Olivier, on est chez vous, on sait bien, on reconnaît les goûts, on reconnaît les choix. Comment parvenir aujourd'hui à préserver ça?
Alors, moi je dirais les choses autrement. Je dirais, mon but c'est que les auteurs se sentent chez eux. Alors c'est chez moi, c'est chez nous, disons. Hein. On partage un lieu qui est un lieu de création, la création littéraire. Or, si vous voulez, c'est vrai qu'on est à une époque, tout le monde le sait, d'énormes concentrations dans le domaine, dans tous les domaines, y compris celui de la culture. Quand on regarde ce qui s'est passé dans le domaine du disque, par exemple, que je connais bien, pour des raisons familiales, disons, aujourd'hui, dans le monde, il y a peut-être 4 ou 5 ce qu'on appelait autrefois maison de disques, si vous voulez. Hein. Ce qui est complètement fou. C'est ce qu'on appelle les majors. Mais dans l'édition de livres, c'est exactement la même chose. Enfin, c'est en train de se faire. Alors, il y a des différences, évidemment, d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, comme on peut s'y attendre, la concentration est à son maximum. Hein. Il y a maintenant 4 ou 5 grands groupes, et pas plus. Les indépendants sont très rares. En France, c'est encore différent, bien sûr, et dans d'autres pays européens. Mais l'important, même dans l'intérêt de ces groupes, c'est que la création continue à exister. Parce que si les écrivains ne sont plus là, ou s'ils ne fabriquent plus que des produits plus ou moins identiques les uns aux autres, ou répondant à des besoins supposés liés au marketing, tout ça va s'effondrer. La création doit rester au poste de commandement. Et pour ça, il faut des éditeurs. Et il faut des maisons d'édition. Et alors évidemment, les managers de ces grands groupes gèrent des budgets énormes, des flux, comme on dit. Les éditeurs, ils gèrent pas des flux, ils publient des écrivains et des écrivaines. Mais il faut donc trouver un langage commun, parce que si on ne trouve pas un langage commun, la création va finir par s'étioler. Et la diversité qui est la matière même de l'art et de la littérature sera menacée. Alors, ça n'est pas le cas tant que les éditeurs peuvent travailler comme ils le doivent et se servir de ce qui est leur instrument principal, qui est leur intuition. L'intuition. Et ça n'a rien à voir avec les chiffres, l'intuition. C'est quelque chose de particulier.
Alors, on sait que dans ce secteur de l'édition, Olivier Cohen, vous avez toujours plaidé pour qu'on juge une maison d'édition, non pas année par année, parce qu'il y a des années à perte, et puis il y a des années où ça marche bien. Et c'est souvent difficile à faire entendre aux grands groupes, et notamment aux comptables, qui sont là dans les groupes pour dire que chaque livre, en principe, devrait rapporter de l'argent, en tout cas ne pas en perdre. Vous, ce qui vous a sauvé souvent, c'est que parfois, il y a eu des livres qui se sont magnifiquement vendus. On va parler en 2019 du Goncourt de Jean-Paul Dubois pour un grand livre. Et puis, vous pouvez vous enorgueillir d'avoir eu le prix Nobel de littérature 2013, la délicieuse Alice Munro.
This is what really interests me and what draws me and what is the most important thing about writing fiction, I think. Not to dissect people, but to celebrate the essential mystery. I think most of the stories start with real people, and then this character is almost lost in something my mind is doing with it, building onto it and changing it. You know, most of the incidents I use do have their starting point in something that really happens.
I don't know who the ordinary people are, because everyone is extraordinary to themselves. In fact, I read one review that said, these people don't have any extraordinary experiences. They're civil servants, farmers, accountants, nurses. Well, nurses have about the most dramatic life I can think of. I don't know, it's probably that I don't write about, well, secret agents or people who have psychic experiences or something like this. But I never consider these people ordinary. But then I never meet anybody I do consider ordinary.
Alice Munro qui explique qu'effectivement, on lui a reproché parfois d'écrire sur des gens très ordinaires, et elle dit que les gens ordinaires sont des gens extraordinaires, oui, à qui il arrive des choses extraordinaires. Et ses livres sont absolument fabuleux. Vous allez d'ailleurs en republier. Hein.
Oui. Alors, Alice Munro, je la dois, si je puis dire, à Geneviève Brisac, qui m'a fait lire, il y a assez longtemps maintenant, des livres d'elle. Et j'ai eu un vrai coup de foudre pour Alice Munro. Et comme la plupart de ses livres étaient épuisés, j'en ai racheté les droits systématiquement, sous les moqueries de certains amis qui me disaient « Comment tu peux t'intéresser à cette... »
À des histoires de bonnes femmes, voilà, disons-le.
Cette vieille Canadienne qui raconte des histoires de bonnes femmes. En réalité, oui, j'avais reconnu dans cette manière de raconter de manière extraordinaire des vies ordinaires, ou plutôt de montrer qu'il n'y a pas de vie ordinaire, quelque chose que j'avais compris des années auparavant au contact de Raymond Carver. Et je m'étais dit, il y a deux génies de la nouvelle, de la short story, il y avait Carver et il y a maintenant Alice Munro. Et quand elle a eu le prix Nobel, j'étais vraiment fou de joie, parce que c'était bon, la preuve que peut-être on s'était pas trompé, mais surtout que cet art très particulier pouvait avoir une valeur universelle et être reconnu comme l'expression la plus élevée de la littérature. Et je veux dire cette manière de systématiquement ne pas traiter des grands sujets, ce qu'on appelle les grands sujets, parce que, à mon avis, c'est ça le plus grand péril que court la littérature, c'est les grands sujets. Hein, je sais pas quoi, l'identité, le destin, la démocratie, ça n'a rien à voir avec la littérature. La littérature, ce sont, en tout cas, tel que je l'entends, s'incarne dans des personnages. La fiction s'incarne dans des personnages et pas dans les idées. Les idées sont là, mais elles ne sont pas au premier plan, si vous voulez. Et Alice Munro est un auteur immense, mais d'une aussi immense modestie. J'ai essayé de la voir plusieurs fois, j'y suis jamais arrivé. C'est un des rares auteurs que nous avons publié et que je n'ai pas réussi à.
Il y a elle et Cormac McCarthy que vous n'avez jamais rencontré.
Alors Cormac McCarthy, on s'est parlé au téléphone, ce qui est déjà énorme, je peux vous dire. C'est un privilège et c'est une des conversations les plus étonnantes qui m'est arrivé d'avoir avec un écrivain, au point même que j'ai tout noté parce que j'avais peur d'oublier ce qu'il m'avait dit. Et lui aussi, je pense que c'est un écrivain très très au-dessus de la moyenne, je dirais. Et malheureusement, il est tombé malade il y a quelques années, et donc on attend un roman qu'il avait entrepris. Mais de toute façon, il a écrit quelques-uns des romans les plus importants, à mon avis, du siècle dernier. Alors, on a beaucoup parlé d'un livre qui s'appelle La Route, qui a eu en France un immense succès. Avec Le Poche, on en a vendu plus de 600 000 exemplaires, si vous voulez. C'est vraiment considérable.
Mais là, vous republiez Méridien de sang.
Alors, Méridien de sang, parce que oui, dans cette liste, il n'y a pas nécessairement des best-sellers. Mmh. Hein. Et Méridien de sang, c'est un livre dont la publication, à l'origine, a été une véritable catastrophe. Parce qu'une catastrophe pour un livre, c'est quoi ? Ben, c'est qu'on n'en parle pas et qu'on ne le lise pas. Et c'est un roman prodigieux, très 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 noir, très influencé par Edgar Poe. Et c'est une sorte de western sauvage d'une brutalité absolument sans limite, mais qui est écrit dans une langue magnifique. C'est un peu l'Iliade, si vous voulez. L'Iliade avec des guerriers sans foi ni loi qui sont d'anciens officiers et soldats confédérés en déroute. Enfin, je ne vais pas vous le raconter.
Non, il vaut mieux l'acheter puisqu'il va ressortir.
Voilà.
La bibliothèque de l'Olivier. Ce seront 18 titres qui vont sortir tout au long de l'année 2021 avec des gens absolument formidables en littérature étrangère et en littérature française. Si je puis me permettre, les éditions L'Olivier, c'est une Z et non pas une ZAD, c'est une zone éditoriale à défendre. C'est ce que je vous souhaite pour votre anniversaire, Olivier Cohen. Merci d'être venu le fêter avec nous ce soir et bonne route à vous. Eh bien, c'est fini pour cette humeur vagabonde en direct de la maison de la radio silencieuse et masquée. Mais si vous le voulez bien, nous nous retrouverons samedi prochain. Je parlerai avec Richard Morgiev de son prochain roman très noir qui se passe également aux États-Unis. Et bien sûr, après les informations de 20h, France Inter continue en série avec Xavier Le Herpeur. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.